avons via Skype depuis Annapolis dans le Maryland Jean-François Seznec, politologue, économiste et également directeur de Lafayette Group, et à Dallas au Texas, Junior Bonpetit. Vous êtes donc républicain mais également partisan de l'ancien président Donald Trump. Mohamed Mboy, je vais démarrer avec vous. Pourquoi selon vous ce sondage fait parler, comme disent les politologues, un an en politique, c'est assez long, non?
C'est très long, même pour ajouter un autre qualificatif. Et donc les résultats sont très surprenants parce qu'ils ne correspondent pas à l'analyse politique ambiante des derniers mois, des dernières semaines. Et véritablement, lors des élections de mardi, on voit aussi qu'il y a un hiatus entre ce que ce sondage dit et ce que les gens, au sortir des urnes mardi, ont dit de leurs intentions d'une manière générale. Donc c'est pourquoi certains même vont jusqu'à contester la méthodologie utilisée pour dire qu'en fait ce sondage est plutôt a été plutôt fait pour agiter le landerneau, pour susciter une sorte de publicité plutôt que ayant une valeur scientifique avérée.
Mais il y a aussi le sondage de CNN qui est sorti, qui semble confirmer aussi cette même tendance.
Oui, il y a bien, donc le sondage CNN est un peu plus sérieux et semble être considéré comme être un peu plus sérieux. Mais là aussi, c'est un peu dans le contexte de les républicains sont dans les primaires, en quelque sorte. Donc il y a un débat autour de ce qui va être notre prochain candidat. Donc il est évident que de ce point de vue-là, il y a une plus grande exposition, disons, des candidats républicains et de leur démarche et de leur débat comparé aux démocrates où finalement après la petite vague soulevée par RFK Jr. Donc ça c'est un peu assagi et qu'il n'y a que Biden. D'accord. À l'horizon pour l'instant. Donc c'est un peu peut-être l'actualité qui favorise Trump parce qu'on parle de lui.
D'accord. Alors, Jean-François Seznec, vous êtes économiste. Quand on voit les chiffres de l'économie, certains auraient donné une excellente note à Joe Biden. Pourquoi ces chiffres ne semblent pas jouer en sa faveur, du moins dans les sondages?
Écoutez, au point de vue économie purement, je pense que les gens ont très peur de l'inflation et je pense qu'ils voient que l'État essaye de faire des gros efforts sur l'inflation. Ça fait monter bien sûr les taux d'intérêt qui est la seule façon de contrôler l'inflation, mais ça crée des problèmes pour tout le monde parce que tout le monde a des dettes très importantes, des dettes sur les cartes de crédit qui sont presque à 30% maintenant sur l'intérêt, donc ça crée beaucoup de problèmes effectivement. Donc je pense que c'est ça qui fait peur aux gens, et bien que effectivement l'économie américaine n'a pas été si bonne depuis très très longtemps.
Alors, le sondage le dit clairement, il y a aussi la question de l'âge, même si c'est une question peut-être délicate pour certains, mais c'est le sondage le dit clairement.
Oui, absolument, absolument. C'est peut-être la question principale, parce que du côté démocrate, les gens aimeraient voir quelqu'un comme Biden, que beaucoup de gens supportent, mais étant sûr qu'il va rester plus longtemps, parce qu'il est quand même assez vieux et que ça crée des gros problèmes pour tout le monde. Et le problème assez fondamental, c'est que la vice-présidente n'a pas de charisme, si vous voulez, donc elle est pas très bien vue du reste du parti, et il y a personne pour remplacer Biden maintenant, et ça peut créer un vide qui est à l'avantage de Trump.
D'accord. Alors, Junior Bonpetit, pour revenir un peu à l'économie, un taux de chômage de 3,9% en octobre, a priori, c'est une note positive. Pourquoi vous et ceux qui s'opposent à Joe Biden ne lui accordez pas de mérite sur l'économie?
Merci Dia pour l'invitation. Alors, effectivement, lors des années de Donald Trump, il y avait le taux de employment rate, c'était à 3,5%. Et au-delà de ça, nous avons vu le prix, l'inflation était stable, le prix des premières nécessités était relativement moins cher, la vie, l'économie, tout le monde était au beau point. Mais maintenant, ce que nous remarquons, c'est que tous les Américains, dans sa quasi-majorité, sont inquiets sur la flambée des prix de l'essence, des biens des premières nécessités, l'inflation et aussi... et tout ce qui s'ensuit, la sécurité, l'immigration, sur le plan économique, l'Américain moyen n'est pas sécurisé. Vous voyez, la dette, la montée des prix, des loyers, des maisons, pour acheter des maisons, tout cela joue en défaveur de président Biden. Et le peuple américain souhaite et veut ardemment voir le président Donald Trump de retour, parce que nous avons besoin de cette stabilité économique, nous avons besoin de retourner sur American Dream.
Et il y a ce sondage qui, dans ce sondage, on voit aussi une montée de l'électorat, disons, africain-américain en faveur de Donald Trump. Comment est-ce que vous l'expliquez, Junior?
Oui, c'est simple. Les gens ont vu, ils ont vu pendant les 5 ans, les quinquennats de Donald Trump. Sur le plan de la politique extérieure, il n'y avait pas assez de guerres, autant de guerres que maintenant, avec la guerre israélo-palestinienne, avec la masse, la guerre de l'Ukraine et la Russie. Pendant Trump, il y avait quasiment la paix et les Africains ont vu que économiquement, ils se faisaient de l'argent, même si certains disaient qu'ils n'aimaient pas la tête de Donald Trump, maintenant leur poche disait le contraire. Et ils ont réalisé la différence. Et tout le monde souhaite de son vœu de voir le président Donald Trump rentrer pour l'année prochaine.
Bon, tout le monde, on verra. En tout cas, Mohamed Boyd, certains dans le camp démocrate, Mohamed Boyd, n'hésitent même plus à demander à Joe Biden de renoncer à sa candidature. Est-ce raisonnable? Et si oui, quelle alternative pour les démocrates?
Oui, bon, c'est évident que Joe Biden dérange effectivement à cause de l'handicap perçu de l'âge, encore que en politique, ça n'a jamais été tellement vérifié que l'âge soit un désavantage. Au contraire, et en tout cas dans la politique américaine, on attend encore de voir quelqu'un être très désavantagé par l'âge, ce qui n'a pas encore le cas. Mais je pense que il y a aussi quand même une perception dans chez certains démocrates qu'on a mis tous les œufs dans le même panier, donc seul Joe Biden, qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas d'échange d'idées, et que donc de cette façon de faire va rendre aveugle en quelque sorte le programme du Parti démocrate, parce que ce sont les démocrates qui parlent aux démocrates et qui finalement peut-être ne vont pas percevoir le pouls de la nation, et donc c'est pourquoi ils veulent non seulement que peut-être il y ait des candidats qui puissent susciter un débat et à partir de ce débat qu'on puisse dégager un programme un peu plus sensible à l'opinion publique américaine que le programme actuel du Parti démocrate ne l'est, et de l'autre côté aussi de créer même une sorte de lever des perspectives dans ces candidatures et dans ces prises de position, qu'il y ait des hommes plus jeunes qui se positionnent et qui, après Biden, vont pouvoir, voler de leurs propres ailes et peut-être présenter le futur du Parti démocrate.
D'accord. Alors, Jean-François Seznec, chez les Républicains, Donald Trump, qui ne participe même pas au débat, est loin devant. Est-ce qu'il y a encore une chance pour que la course républicaine soit plus compétitive?
Oui, je pense que Trump est bien sûr bien en avance. Il a très peu de chances de perdre les primaires, mais par contre, il peut toujours y avoir un accident. Vous savez, lui aussi n'est pas très jeune et il a beaucoup de problèmes en ce moment. Il est très mal vu par beaucoup de gens quand même, et même dans son parti. Et je pense qu'effectivement, parmi les candidats et la candidate qu'on a vu hier soir, Nikki Haley peut très bien avoir une chance de vraiment faire de se présenter positivement contre Trump.
Et justement, Junior, avant d'aller aux commentaires Facebook, vous êtes un partisan de Donald Trump. La montée dans les sondages de Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de la Louisiane, ne vous inquiète pas? Et aussi les poursuites judiciaires contre Trump, c'est un peu beaucoup. Vous pensez que Donald Trump continuera à diriger un peu cette campagne du côté républicain?
Effectivement, oui, nous croyons énormément au candidat Donald Trump, président Trump, parce qu'actuellement, il écrase sur le primaire, le sondage, les intentions de vote au Parti républicain. Et malgré ses démêlés avec la justice, 4 inculpations, il reste toujours super favori, avec plus de 58% d'intentions de vote. Vous voyez, le président Trump, il a gardé sa base fidèle à lui, et au-delà de cela, il y a des indépendants qui lui font confiance maintenant dans les États comme le Nevada, Georgia et les États où on a perdu les élections la fois dernière. Mais donc, le président Trump sera notre candidat, il sera bien réuni, il sera bien porté à la magistrature comme candidat de républicain. Alors nous, notre parti est diversifié. Nous avons des jeunes, nous avons comme le gouverneur Ron de Floride. La relève est là, mais le problème de l'âge ne se pose pas. Le président Trump, mentalement, il est fort, physiquement, il est au point pour diriger ce pays l'année prochaine.
Bon, d'accord, on va en tout cas continuer à suivre. Voici quelques commentaires de nos téléspectateurs laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Pierre Mouchaba est à Boston, ici aux États-Unis. Il nous dit que le président Biden reste le grand favori grâce à son style, son respect pour la Constitution et sa confiance en l'autorité de l'État, au moment où M. Trump a toujours un dossier en cours devant la justice sur l'attaque au Capitol Hill. Et puis, ce téléspectateur se fait appeler Excellence Trump Kaba, il est à Conakry. Il dit que Trump va écraser quelqu'un le 5 novembre 2024 en infligeant un score humiliant à la dite personne qui verra vive le président Trump. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum. Reviens après une courte pause.
Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Retrouvé pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités au téléphone depuis New York, Mohamed Boyd, professeur d'histoire à Manhattanville College, à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, économiste, politologue et directeur de Lafayette Group, et à Dallas, Junior Bonpetti, républicain, activiste et partisan de l'ancien président Donald Trump. Alors, Mohamed Boyd, les résultats des élections dans des États comme la Virginie ou l'Ohio qu'on a vu avant-hier, est-ce que ces résultats donnent un aperçu de ce qu'on pourrait voir en 2024?
Ah oui, tout à fait. Donc, parce que le Parti républicain traîne une grosse casserole qui est donc la fin de la décision Roe. Et donc, il y a partout une inquiétude, en particulier des femmes qui se mobilisent un peu plus sur ce front-là pour résister contre, pas tellement d'ailleurs, d'une façon technique, la limite à l'abortion, mais l'idée que l'État peut actuellement contrôler vos libertés et les restreindre simplement parce que idéologiquement ils ne veulent pas que vous exerciez certaines libertés, alors qu'ils voudraient, l'État, ici les législatures des États, ils voudraient que vous exerciez d'autres. Donc de ce point de vue-là, il y a une contradiction majeure dans le projet républicain qui est de restreindre la liberté individuelle dans un domaine tout en se proclamant comme le parti de la liberté. Et là, c'est une faille énorme, et en particulier le problème de l'avortement va certainement être un avantage aux démocrates, comme ça a été déjà le cas durant les deux derniers cycles électoraux.
Jean-François Seznec, justement, les démocrates ont jusque-là galvanisé leurs électeurs autour des questions comme le droit à l'avortement, la défense de la démocratie. Et pour 2024, vous pensez que ce sont des sujets qui vont encore mobiliser ?
Oui, certainement. Enfin, il est certain que le Parti démocrate va maintenant faire tout ce qu'ils peuvent pour lier tous les républicains au problème de l'avortement. Et je pense que beaucoup de républicains vont changer leur vue sur ce point et vont être beaucoup moins contents de critiquer l'avortement. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être quelque chose de très important dans les discussions. Mais je pense que les républicains vont faire tout ce qu'il faut pour essayer de changer le chemin et faire autre chose. Le problème de Youngkin en Virginie, par exemple, c'est que c'était quelqu'un qui avait énormément de chances d'être le successeur de Trump, et là il a pris une vilaine défaite à cause de l'avortement. Donc beaucoup vont se séparer de ce problème et vont essayer de trouver d'autres problèmes qui existent, hein, comme l'économie, l'inflation, etc., et vont mettre de l'emphase là-dessus.
Alors, Junior, en tant que républicain, êtes-vous déçu que les électeurs de l'Ohio, par exemple, un État foncièrement conservateur, votent pour garantir le droit à l'avortement ? Et comment cette question de l'avortement devrait être abordée maintenant par les républicains ?
Ouais, merci pour cette question. Les démocrates profitent un peu de cette question de l'avortement. Nous mettons les stigmates que nous sommes contre les libertés. Nous ne sommes pas contre les libertés. Nous sommes là pour protéger la vie de bébés et des enfants. Nous donnons la liberté, mais jusqu'à dans certains États, comme au Texas, jusqu'à 6 semaines, dans d'autres États, jusqu'à 8 semaines, et lorsqu'il y a l'abattement du cœur. Vous voyez, mais il y a des exceptions pour faire l'avortement, lorsque la vie de la maman est en danger, lorsque aussi il y a l'inceste, et d'autres cas, nous acceptons l'avortement. Évidemment, cette question d'avortement est très sensible. Nous essaierons de mettre un peu de l'eau dans notre moulin pour voir un peu, mais nous n'allons pas intransiger sur nos valeurs. Nous sommes des conservateurs, nous sommes là pour protéger la vie de la maman.
Mais certains diraient aussi que le droit à la vie, c'est par exemple la question de l'armement, le deuxième amendement. Certaines personnes qui perdent leur vie à cause de certaines lois sur l'armement. Donc là aussi, c'est un débat, non?
Oui, le problème n'a jamais été sur l'arme. C'est l'individu qui porte l'arme, parce que l'arme ne tire pas de soi. Vous voyez, donc, le problème, ce n'est pas l'arme. Donc, il faut, là encore, recadrer les débats. Donc, pour revenir par rapport à l'avortement, ce que nous stigmatisons, ce que nous proposons, c'est que c'est mettre les règles sur ça, protéger les enfants. L'Amérique est une société vieillissante. Nous avons besoin de plus de naissances pour l'économie de ces pays dans les 50 prochaines années. Et c'est là que nous devons prendre des risques. C'est vrai que nous payons. Nous avons payé pour l'élection passée. Nous avons payé aussi les récentes élections, mais nous allons voir stratégiquement comment harmoniser, comment réguler et présenter à l'opinion publique. Nous ne sommes pas contre les libertés des femmes. Par contre, nous sommes là pour protéger les enfants et les mamans. Mais jusqu'à un certain moment, à 6 semaines, à 8 semaines, la femme peut constater qu'elle est libre de faire son avortement. Mais au-delà de cela, la loi donne ses limites.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les derniers sondages, celui du New York Times, de CNN, qui semble confirmer un remake. avec Biden-Trump, en tout cas pour l'instant, mais qui ne semble pas non plus enchanter le public de façon générale. La plupart des sondages, certes, les mettent devant, mais souhaiteraient quand même qu'il y ait d'autres personnes qui émergent. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? C'est une question que je pose un peu à tout le monde. Mohamed Mbouik d'abord.
Je pense qu'il y a quand même l'effet de la presse américaine qui cherche toujours le combat du siècle, des choses de ce genre, et qui certainement a intérêt à créer un contraste majeur de ce point de vue. Et puisque pour l'instant les deux candidats ne sont pas, disons, sur le chemin de la campagne et être confrontés entre les deux, on essaie de chauffer la salle avec l'idée que peut-être il y a d'autres alternatives, mais ces alternatives ne se présentent pas. Même le débat républicain d'hier soir était vraiment piètre. Il y avait aucune idée nouvelle, il y avait des invectives, en particulier plus ou moins à mot voilé contre les étrangers, contre les musulmans, contre ceci, cela, mais en réalité, en fin de compte, il n'y avait aucune proposition, aucune perspective politique réelle. C'était des slogans. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la vie politique américaine, en particulier dans la course à la présidence, est très pauvre pour l'instant. Et donc, pour un peu combler cette pauvreté ou pour la remplacer, on essaie de jongler un peu sur cette perspective. Est-ce que Biden a l'âge de se représenter? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que d'avoir deux vieillards qui vont se retrouver sur le ring? Et bien entendu, ce qui est un spectacle qui n'est pas très enchantant, de voir deux vieillards être sur un ring de boxe. Donc il y a toutes ces visions, disons, que la presse essaie d'agiter un tout petit peu pour garder le contrôle de l'analyse politique, parce que effectivement elle n'arrive pas à cerner le problème. Que Trump soit encore de façon aussi importante malgré ses déboires judiciaires, etc., ça pose problème.
Voilà, nous avons que deux minutes. Je voudrais donner la parole à Jean-François Seznec, puis à Junior, avant de clore sur cette même question. Les sondages semblent montrer que les Américains veulent autre chose, mais on risque de se retrouver avec la même affiche. Qu'est-ce que ça vous inspire, Seznec?
Oui, effectivement, je pense que maintenant va commencer la grande recherche pour d'autres candidats dans les deux parties, en fait. Et je pense que quelque chose qui s'est passé avant-hier, c'est la victoire de Beshear en Kentucky, qui est un démocrate, mais vraiment centriste, et même un peu même droitiste, qui pourrait vraiment être quelqu'un de très bien vu par toute l'opinion, la grande partie de l'opinion américaine. Donc les démocrates vont essayer peut-être de trouver quelqu'un dans ce style-là. Du côté républicain, il y a beaucoup de monde qui ont aussi des grandes qualités, et il va peut-être y avoir une recherche fondamentale de trouver des nouveaux candidats. Il y a encore un an, c'est pas beaucoup de temps pour faire tout le travail par derrière, mais je pense que c'est pas entièrement fini tout ça.
D'accord. Junior, vous avez le dernier mot?
Merci. Pour nous, du côté républicain, il n'y a pas à débattre. Le choix est fait sur le président Donald J. Trump, qui a des intentions de vote de tout le monde, en tout cas la quasi-majorité du côté républicain. Le débat blesse du côté démocrate parce qu'ils n'ont pas de candidats, ils n'ont pas d'autres alternatives. Le duel Joe Biden et président Trump, le président Trump gagnera haut la main, parce que Biden de 2020 n'est pas Biden de 2024, parce que maintenant il aura un bilan à défendre. Nous avons vu son parcours, nous avons vu comment l'Amérique est en train de perdre le point partout, l'Amérique est devenue de plus en plus faible. Trump, il va l'emporter haut la main en 2024.
Comme on l'a dit en début d'émission, on a encore 12 mois et c'est très long en politique, donc on continuera à suivre. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur nos différentes plateformes digitales et puis notre site voafrique.com. Je remercie toute l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir.